Bon matin, Nouvelle-Ville-la-Prairie, vous allez bien? Content de vous voir aujourd'hui en ce dimanche de Pâques. Et je vois plusieurs personnes qui sont là, nouvelles, invitées peut-être par la famille, les amis. Vous êtes nos invités d'honneur aujourd'hui. Sentez-vous à l'aise à la maison. On ne se connaît pas, mais on vous aime déjà. Est-ce que Nouvelle-Ville-la-Prairie, on peut les applaudir et leur dire bienvenue? Vous êtes là avec nous en famille. On célèbre aujourd'hui, et peut-être c'est la première fois que quelqu'un rentre à l'église et dit « Oh, je pensais voir juste des gens à peu près de 120 ans et plus. Je ne pensais pas qu'il y avait des enfants un peu partout. Il y a de la joie, il y a des mascottes, du chocolat. On chante, on célèbre, on est passionné. » Je peux vous dire que c'est comme ça tous les dimanches, mais ce dimanche spécialement, parce qu'on célèbre la Pâque. Jésus a été crucifié le vendredi et il est ressuscité le dimanche. Et si on peut célébrer dans la vie parce qu'on a gradué à l'école ou parce qu'on a acheté une nouvelle maison ou parce que ton équipe a gagné le Super Bowl, on croit que l'Église a le droit et le devoir de proclamer que Jésus est ressuscité parce qu'il est vivant et ça change tout. Est-ce que je peux entendre une Église qui acclame et qui célèbre le Dieu qui est vivant et qui continue d'agir encore aujourd'hui? Important de célébrer aujourd'hui et tout ce qu'on a à vous proposer aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. À chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, à chaque fois qu'on lit la Bible, à chaque fois que Dieu s'adresse à nous au travers de l'Église, c'est qu'il a une bonne nouvelle pour nous. Si vous vivez en ce moment aujourd'hui, peut-être que vous dites c'est la pire saison de ma vie. La bonne nouvelle, c'est qu'ici on a une bonne nouvelle parce que là où Jésus est, il y a toujours de l'espoir. Et là où est Jésus, il y a toujours des miracles. Alors vous êtes dans la bonne maison, même si vous dites je suis tellement loin de Dieu, je suis peut-être un athée ou agnostique, je suis jamais rentré dans une église, c'est peut-être ma première fois. Bienvenue parce qu'ici, la maison est ouverte à chaque personne. On est tous sur le même piédestal, tous à avancer plus proche de Jésus jour après jour, n'est-ce pas? Alors vous êtes les bienvenus parce qu'on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Et puis oui, Pâques, aujourd'hui en ce moment, ça va être un petit peu partout, le lapin, les chocolats. En passant, on avait fait toute notre réserve avec Sophie, on a deux enfants, un de 6 ans et un de 3 ans. Alors on avait comme fait notre réserve, on avait acheté tous les chocolats Kinder qui sont disponibles sur le marché. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la presse, il y a eu un rappel complet des chocolats de Pâques Kinder. Je ne fais pas de mauvaise pub, mais en tout cas, parce qu'il y a eu des cas de salmonellose. Donc là, tout mon stock que je pensais faire la chasse au coco cet après-midi, on a dû le jeter bien tranquillement. Donc, si jamais vous avez des Kinder, moi, en tout cas, à Pâques, je ne mange que des chocolats Kinder. Je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose, là. Hein? On ne va pas commencer le débat, c'est Kinder. C'est tout, je le dis, c'est fini. Donc, mais alors qu'on est prêt à faire le chocolat aujourd'hui, tout le monde va manger, ça va être la dose de sucre pour les deux dernières années où on n'a pas pu aller à la cabane à sucre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va manger, ça va être fou. Pâques, c'est une célébration familiale, c'est génial. Mais Pâques, à la base, c'est la célébration que Jésus est mort le vendredi saint, celui qu'on a fêté il y a deux jours, trois jours. Et le dimanche de matin, Jésus est ressuscité. Et ça, ça change tout. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Pâques, la raison pourquoi nous la célébrons, c'est que, et c'est le titre de mon message, c'est que tu peux aujourd'hui, grâce à Pâques, avoir confiance en Dieu. Tu peux avoir confiance en Dieu. Dans une société qui est de moins en moins à chercher tout ce qui est spirituel, ou alors en fait à le chercher un peu tout partout autre qu'aux places où on lui dit d'aller. Il y a un côté où tout ce que tu peux inventer comme spiritualité aujourd'hui, les gens se sont dit « Ok, on essaye. Je ne sais pas où ça va me mener, mais on va essayer. » Aujourd'hui, tu peux retrouver confiance en Dieu. Pâques, c'est réellement la raison pourquoi et pour laquelle nous pouvons avoir confiance en Dieu. Certains ont été déçus de la religion, certains ont été déçus de Dieu, certains ont été déçus de gens qui devaient censés être représenter Dieu, mais qui ont fait des atrocités incroyables. Avec cette Bible dans la main qui était plus comme un marteau sur les gens pour les oppresser, alors que la parole de Dieu est en aucun cas quelque chose qui oppresse, mais quelque chose qui relève. Et si nous sommes là à célébrer, ce n'est pas parce qu'on est oppressé, au contraire, c'est que nous avons été libérés. Pâques, c'est la liberté sur le péché, sur tout ce qui ne me détruit. Parce que si Jésus est ressuscité des morts, c'est que tout est possible à celui qui croit. C'est que Dieu nous donne de pouvoir vivre sa liberté au travers de son Fils Jésus. Certains voient Dieu comme un peu dans la mythologie gréco-romaine, un peu comme Zeus. Dès qu'on fait quelque chose, il y a des éclairs dans sa main prêts à faire la punition, la condamnation, l'oppression sur les mortels. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Si on revient à la base de ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Et justement, nous pouvons avoir confiance en Dieu parce que si nous ne savons pas, si en ce moment je te dis à quoi ressemble le Dieu que tu penses, Certains vont dire qu'il est lointain, on ne sait même pas s'il est là, c'est comme un genre d'esprit de force au-dessus de nous tous. Là. On ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas, on veut se tenir loin de ça parce que c'est un petit peu épeurant. Alors qu'en fait, non. Si tu veux savoir qui est Dieu, il faut que tu regardes à qui est Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, la Bible de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1, 5, le Fils, en parlant de Jésus, est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Si tu veux savoir comment réagit Dieu, regarde à comment réagit Jésus. Si tu veux savoir qui est Dieu, regarde à qui est Jésus. Et aujourd'hui, Pâques, tout est centré sur Jésus. Et le message de la bonne nouvelle est centré sur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit Jésus, on voit Dieu. Lorsqu'on voit l'amour de Jésus, on voit l'amour de Dieu. Lorsqu'on voit la victoire de Jésus, on voit la victoire de Dieu et la victoire pour nous. Est-ce que je peux entendre un amen ? Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi on peut avoir confiance en Dieu. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est que tu peux avoir confiance en Dieu parce que tu peux avoir confiance en son amour. Pâques, si ça devait se résumer en un mot, c'est l'amour. Je ne sais pas si ça compte pour deux avec le L apostrophe, mais vous m'avez compris. Amour. L'amour de Dieu a été manifesté d'une manière parfaite à la croix. Pâques, c'est Dieu qui te dit « je t'aime ». Même si tu dis « je ne sais pas ce que ça veut dire, un Dieu qui aime », je voyais plus un Dieu qui est comme oppressant, vraiment quelque chose qui est comme lointain, je ne veux jamais un Dieu sévère, comme parfois des visions qu'on a que dès qu'on fait un faux pas, il est là pour nous condamner. Alors qu'en fait, non. Jésus est venu justement pour enlever cette condamnation et pour nous donner un espoir. Pâques, c'est l'amour. L'amour à la croix. Jésus à la croix était en train de faire la plus grande preuve d'amour pour l'humanité. C'est pour ça que tu peux avoir confiance en Dieu, parce qu'il a prouvé son amour à la croix. Romains 5, 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu n'attend pas que tu deviennes parfait pour t'aimer. Il dit « Je t'aime déjà comme tu es. Je t'aimais même avant ta naissance. Je savais exactement qui tu étais, qui tu serais. Mais je le sais parce que j'ai donné ma vie pour que tu ne sois plus comme ça, que tu deviennes, que tu sois transformé. » Et c'est là où le chrétien sait qu'il n'est pas parfait, mais il est en progression, parce que lorsque Dieu nous aime, son amour change tout. Son amour bannit la crainte, la peur, les addictions, toutes les choses, le péché n'a plus d'emprise sur nous, parce que son amour nous libère. Tu peux avoir confiance en Dieu aujourd'hui parce que Dieu t'aime. Quelqu'un dira, oui, mais c'était il y a longtemps, ça, c'était il y a comme 2000 ans qu'il est mort. C'est loin, là. C'est un petit peu loin. Non, non, non. Le sacrifice de Jésus, c'était la signature d'amour pour Dieu, pour l'humanité. Jésus a donné sa vie pour nous tous, et Jésus a donné sa vie une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il a porté les péchés passés, présents, futurs. Donc même si aujourd'hui on dit « oui, mais c'est il y a 2000 ans, c'était il y a longtemps », non, 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 il est venu dans notre passé pour que notre futur soit complet en lui et qu'on n'ait plus à subir le poids du péché. Est-ce que je peux entendre une église qui acclame notre Dieu, qui a pourvu? La croix de Jésus représente l'intersection entre l'amour de Dieu et la sainteté de Dieu. Parce que oui, si Jésus est mort sur la croix, c'est pour porter nos fautes et nos péchés. Et je sais que le péché sonne comme un peu « oh, c'est très condamnatoire ». Non, aucunement. Si on prêche Jésus et le péché, c'est justement parce que Jésus enlève la condamnation du péché. Il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est un peu des gens qui disent « ah, oh, mais vous parlez de péché, vous êtes toujours en train d'accuser, accabler ». Non, non, non. C'est comme si tu vas chez le médecin et puis tu râles sur lui en disant « mais regarde, vous me dites toujours que j'ai des maladies ». Non, il est là pour t'aider. Nous, on est là juste en train de dire « nous sommes dans l'humanité pécheurs, pécheresses ». Elle s'en va vers la mort, elle s'en va vers la destruction. Et dites-moi pas qu'en ce moment, ça va bien l'humanité. Ah oh, ouais, tout va bien. Non, 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 l'humanité court à sa perte. Et de génération en génération, on trouve des nouveaux patterns qui nous détruisent de plus en plus. Ça commence plus jeune, ça termine plus tard. Mais en fait, il n'y a aucune solution. Même les gens les plus intelligents dans cette vie disent « on ne sait pas ce qu'il y a après ». Parce que la solution ne se trouve pas ici dans l'humanité. La solution s'est trouvée dans le ciel qui est venu pour sauver l'humanité. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que peu importe la culpabilité que tu portes sur tes épaules, peu importe comment tu te sens accablé ou que tu essayes de marcher dans cette vie, mais en même temps, c'est flou l'avenir. Jésus est la réponse à ça. Jésus te dit « j'ai donné ma vie pour toi pour que tu puisses être sauvé. Ne plus être accablé par le péché. » Quelqu'un dira « mais je ne suis pas un pécheur tant que ça. Je suis une bonne personne. Je fais de mon maximum. » Un peu comme on dirait, on essaye de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Vous avez déjà entendu ça? C'est quand tu sors du gym, tu dis « Ouais, je suis la meilleure version de nous-mêmes. » Après, c'est juste que ça retombe, après tu dois recommencer. Non, il y a un côté où aujourd'hui, l'humanité, on essaye de chercher par nos propres forces de gagner notre ciel, de gagner notre salut. J'ai fait un peu de mal dans ma vie, mais je me suis tellement rattrapé. Non, en fait, non. Le péché est comme une tache mise sur un vêtement. Et une fois que la tache est là, la tache reste à tout jamais. C'est-à-dire que dès que nous naissons dans l'humanité, nous sommes pécheurs. Et c'est-à-dire pécheurs, donc séparés de Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est parfait. Et il ne peut être en présence de quelque chose d'imparfait, d'impur. Et c'est là où il y a une séparation qui s'est faite. Elle n'était pas prévue de Dieu. Dieu avait tout prévu pour que l'humanité et lui soient complètement en communion parfaite. Mais l'homme a choisi de désobéir à Dieu. L'homme a choisi de faire son propre chemin et de choisir sa volonté. Et c'est là où le péché est entré dans le monde, le péché, la souffrance, la mort, et tout ce qui t'arrive de mal en ce moment est de la chute, de la désobéissance de l'homme. Par contre, Dieu est un Dieu d'amour. C'est pour ça que tu peux avoir confiance en lui. Dieu est tellement un Dieu d'amour qu'il est venu et il a cherché sa création pour qu'elle soit en communion avec lui. Et si on lit la parole de Dieu, si on lit la Bible, tout l'Ancien Testament nous montre comment Dieu choisit un homme, une famille, un peuple pour essayer de rattraper l'humanité jusqu'à l'ultime d'envoyer Jésus-Christ sur cette terre pour dire le péché était en train de vous écraser, mais moi j'ai envoyé mon Fils, le Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu lui-même incarné en homme pour venir mourir sur le bois et dire maintenant que je suis mort, vous n'avez plus à mourir. Et parce que j'ai la vie éternelle, je vous donne la vie éternelle. On peut applaudir notre Dieu qui pourvoit à un plan pour nous. Un seul péché nous sépare de Dieu. On dirait mais c'est quand même... pas beaucoup. Comme si une personne vivait une vie parfaite, mais juste une fois, elle avait une mauvaise pensée. Ah, séparée de Dieu. Vous savez, cette semaine, j'ai ri. En même temps, c'est cocasse. C'est un petit peu... J'ai ri parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur, mais qui a eu des grandes conséquences. Le Devoir titré cette semaine, « Santé Québec partage par mégarde un lien vers un site pornographique ». Oui, j'ai fait comme « What ?» Santé Québec, ok, voici ce que ça disait. Le ministre québécois de la Santé a fait l'erreur ce matin de partager sur son compte Twitter un hyperlien, donc un peu la barre HTML, là, un hyperlien renvoyant à un site pornographique, plutôt que vers le site du gouvernement, comme à son habitude. L'erreur a rapidement été corrigée, n'a pas manqué de faire le tour de la toile. Le point, c'est que la personne qui a fait le lien, elle a juste oublié une seule lettre dans l'hyperlien. C'est-à-dire que des fois, il y a des adresses que tu ne comprends pas, des signes, des mots et puis des symboles. Et il y en avait juste un, il y avait juste un symbole qui manquait. Et là, donc, ça a été remis sur un autre site complètement, en fait, à l'opposé de là où il voulait être, n'est-ce pas? Le péché, c'est ça que ça fait. C'est qu'un seul t'emmène à une direction complètement opposée de la voie de Dieu. En fait, il te manque une lettre, il te manque un symbole. Et le symbole, c'est une forme de croix. Et dans notre vie, il nous manque tous, peu importe la beauté de la phrase, peu importe la beauté du lien, waouh! En fait, il nous manque une lettre. Et en fait, cette lettre-là, ce symbole-là, c'est la croix. Et Jésus, quand il rentre, c'est comme une clé qui rentre dans une serrure. Et là, tout est ouvert. Et là, la réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés, la liberté complète, l'amour, la joie, la paix, tout ce que nous avons rêvé de vivre, nous le pouvons le vivre à travers Jésus. Et même sur cette vie ici, mais après la mort pour l'éternité, parce que Dieu a vaincu la mort. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Une seule lettre sépare le lien corrigé de celui qui a été malencontreusement partagé. Une seule lettre, c'est pas beaucoup. Oui, mais ça t'a envoyé dans un lien complètement loin de ce que tu voulais. C'est cocasse. Mais quand on regarde à notre vie, on essaye de tout faire bien jusqu'à la fin. Et vous savez, en tant que pasteur, j'ai vu des personnes sur leur lit de mort ne pas savoir où ils vont après leur dernier souffle. Et la pire angoisse est là. Comme où je vais. Par contre, j'ai vu de la même manière des personnes qui ont eu des cancers foudroyants et puis en quelques semaines, ils savaient qu'ils s'en allaient. Ils avaient encore, entre guillemets, la vie devant eux, mais non, en fait, là, la vie était finie. Mais ils avaient une assurance de leur salut. Dans leurs yeux, on voyait une paix, on voyait une joie. Ils disaient, vous pleurez, oui, mais réjouissez-vous parce que ma vraie vie va commencer là-haut, parce que je sais que mon Sauveur est venu ici. Il a vaincu la mort à la croix et maintenant, pour l'éternité, je vais célébrer en vous attendant. Et ça, c'est l'assurance de notre salut que Jésus nous donne. Aujourd'hui, on n'est pas là pour condamner personne. Au contraire, on est là pour offrir la solution. Jésus n'est pas venu pour donner des bons conseils. Jésus est venu pour être la solution. Si tu cherches la solution à tes problèmes en ce moment, elle se trouve en Jésus. Peu importe tes problèmes. Parce qu'au fond de ton cœur, Il y a un cœur, il y a un poète qui disait, le cœur de l'homme, il y a un vide dans le cœur de l'homme. Et ce vide est en forme de croix. La clé qui te manque, c'est la croix de Jésus. Et quand tu vas comprendre cela, son amour pour toi manifesté à la croix, c'est là où tu vas dire, waouh, le pardon a été offert. Le pardon coûte toujours quelque chose. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi Jésus a dû mourir? Si Dieu est tout puissant, il aurait juste pu claquer des doigts et le pardon était offert. En fait, non. Parce que le pardon requiert toujours quelque chose. Toujours. Quand tu pardonnes, tu prends le poids. Imaginez une situation. Si on vous fait une offense incroyable, vous avez le cœur brisé, vous vivez des moments tellement de... Vous avez que de la colère, de la rancune, de la tristesse. Et là, la première chose charnelle en nous, c'est la vengeance. Mais la vengeance, c'est quoi? C'est le mal que je porte, je veux te le faire porter. Et même, je veux t'en donner plus. Je veux me venger d'une manière où toi, tu vas pouvoir sentir la souffrance encore plus que moi. En fait, on veut transférer notre souffrance. On le sait, ça ne fonctionne pas comme ça. Et au plus tu fais souffrir l'autre, au plus toi, tu sais que c'est pas satisfait. Sur un temps, tu penses que ça l'est, mais en fait, non, ça te ronge encore plus. Alors que le pardon, c'est que tu décides de pouvoir prendre cette souffrance et au lieu de la donner, tu l'absorbes et tu dis « je pardonne, je décide de relâcher ». Le pardon coûte toujours quelque chose à quelqu'un. Devant la souffrance, on a deux choix. Soit faire payer la souffrance à l'autre, soit absorber la souffrance et prendre sur soi. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a dit « Vous tous, passé, présent et futur, toute l'humanité au complet, je le prends sur moi à la croix. Tous les péchés, tout ce qui peut être mal dans ta vie, il l'a porté. Toutes les divisions, toutes les vengeances, toutes les culpabilités, tous les péchés qui sont secrets, que personne ne connaît, mais Dieu les connaissait, il les a déjà portés. Et il dit « Si tu viens à moi, si tu me reconnais comme ton sauveur et ton Seigneur, tu n'auras plus à porter ce poids sur tes épaules parce qu'il a été porté à la croix. Ne porte pas sur ton dos ce que Jésus a porté sur ses épaules. Il a déjà fait et tout a été accompli. La plus grande preuve d'amour, Jésus dira, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et vous savez, il y a Emma Québec, c'est la campagne du don du sang. Et j'aime leur slogan qui dit « Donner du sang, donner la vie. » Parce qu'on le sait, le sang que tu vas donner va aider quelqu'un s'il y a besoin d'une transfusion sanguine. Et on n'a jamais assez besoin de sang. Alors c'est pour ça qu'on encourage tout le monde. Même l'Église a été un grand centre de dons plusieurs fois parce qu'on croit qu'il faut qu'on aide notre prochain, même si on ne le connaît pas. Mais Jésus te connaissait avant même que tu naisses. Il t'avait déjà pardonné avant même que tu naisses, avant même que tu pèches et avant même que tu te rendes compte que lui t'avait pardonné pour ton péché. C'est là la puissance de Dieu. Jésus n'était pas un simple homme. Jésus était 100% divin et 100% humain. Mais il accomplit ce que lui seul pouvait accomplir. Tu es aimé ce matin. Tu peux avoir confiance en Dieu parce qu'il t'aime. Tu es précieux, tu es précieuse à ses yeux. Si tu te demandes aujourd'hui, c'est quoi ma valeur aux yeux de Dieu? Jésus répondra seulement. En fait, si tu demandes à Dieu, quelle est ma valeur à tes yeux? Dieu répondra, Jésus. Ta vie était dans les yeux de Jésus quand il était en train de mourir en disant, j'aime, je l'aime, je veux le sauver, je veux qu'il soit réconcilié. Nous pouvons avoir confiance en Dieu car il nous aime et aussi parce qu'il dit ce qu'il il accomplit ce qu'il dit. Et c'est là où on peut avoir confiance en sa parole, c'est mon deuxième point. Jésus a parlé quand il était sur cette terre, il a vécu 33 ans et dans les trois dernières années de sa vie, il a fait le ministère avec ses disciples, ses amis, les gens qui allaient continuer son œuvre ici sur terre et changer la face du monde. Encore pour nous aujourd'hui, il y a un côté incroyable où l'évangile a explosé de Jérusalem à l'époque pour venir maintenant, la foi chrétienne qui est la plus répandue partout sur la terre et qui grandit d'une manière exponentielle, même dans les pays, en fait encore plus dans les pays où il y a le plus de persécution. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il n'y a aucun mouvement, aucun empire qui pouvait arrêter la présence de Dieu, l'Église. Parce que l'Église est le corps de Dieu, le corps de Jésus. Et alors que Jésus était en train de parler, il expliquait la mission pour laquelle il était venu sur terre. Il expliquait qu'à la fin de sa vie, il devrait souffrir, mourir, mais que trois jours après, il allait ressusciter. Mais même ses disciples ne comprenaient pas à l'époque. Les disciples n'ont pas compris. On regarde dans Marc 9, 31-32. Jésus leur dit à ses disciples, « Le Fils de l'homme, en parlant de lui, Jésus, sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et trois jours après qu'il sera mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Jésus disait qu'il allait ressusciter, donc qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu lui-même. Mais même les disciples avec qui il marchait ne comprenaient pas. Alors Jésus, à ce moment-là, on aurait pu lui dire, « Ok, tout ton enseignement est pas mal bon, là, c'est des bons enseignements, mais quand tu dis que tu es Dieu, que tu vas mourir et ressusciter, ça sonne quand même un petit peu bizarre. Soit Jésus était un menteur, soit Jésus était un fou parce qu'il le croyait, soit Jésus était le Fils de Dieu. Il n'y a que trois possibilités. À vous de choisir laquelle. Et voici ce que C.S. Lewis dit. C.S. Lewis était un ancien athée, diplômé de Cambridge, celui qui a écrit les Chroniques de Narnia. Il a écrit des dizaines de livres incroyables, des romans. Et lui, quand il a rencontré Dieu, incroyable, une transformation incroyable, et il a passé sa vie à écrire, à rédiger qu'est-ce que Dieu lui donnait. Et puis, il a eu un don et un talent incroyable. Mais voici ce qu'il dit. J'essaie ici d'empêcher quiconque de dire cette chose insensée que les gens disent souvent de lui en parlant de Jésus. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand maître de morale, mais je n'accepte pas sa prétention d'être Dieu. Il ne faut pas dire cela. Un homme qui ne serait qu'un simple homme et qui tiendrait ce genre de propos que Jésus a tenu ne serait pas un grand maître de morale, ce serait un fou, au même titre que l'homme qui se prend pour le diable de l'enfer. Vous devez choisir, ou bien cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien c'est un fou, ou ce n'est pire. Mais comment on peut savoir si quelqu'un ment ou est fou? C'est de voir qu'est-ce qui y arrive. Jésus est mort le vendredi et le dimanche, il est ressuscité. Et là, peut-être quelqu'un dira, oui, mais comment ça s'est passé? Voici Marc 16, 1 à 8. Voici comment les gens qui étaient de sa communauté, ses disciples, les femmes et les hommes, sont arrivés et ont vu le tombeau vide. Même eux ne croyaient pas ça. Voici Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. C'était le tombeau là où Jésus restait. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, mais il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précèdent en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. C'est pour ça qu'on peut croire à la résurrection parce qu'il y a des preuves historiques et même dans le texte lui-même, on voit que même ceux qui étaient censés comprendre que Jésus allait ressusciter, même eux en doutaient. Et voici les preuves pourquoi on croit. J'ai lu des dizaines de livres incroyables, des gens qui étaient sceptiques, des gens qui ont fait des recherches archéologiques, tout ce que vous pouvez. Il n'y a personne qui retrouve le corps de Jésus. Et à cette époque-là, c'est un problème pour tout le monde. Voici les preuves pourquoi on peut croire à la résurrection. Le fait que le tombeau soit vide, c'est déjà une preuve en soi. Pourquoi? Parce que les Romains qui avaient crucifié Jésus ne voulaient surtout pas que Jésus réapparaisse. C'était pour eux quelqu'un qui amenait du trouble dans la ville parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Les Juifs voulaient le faire tuer. Les Romains voulaient juste calmer tout ça. Alors ils ont dit, on va le crucifier et ça va être fait. Maintenant, pour pas qu'il y ait de complot et tout ça, ah, ils ont volé son corps, on va rouler une pierre incroyable que personne ne peut rouler et on va mettre des gardes dedans. Alors quand les Romains se sont rendus compte que le tombeau était vide, c'était un grand, grand problème pour eux. Et je vous le dis, si c'était les Romains qui l'avaient, ils l'auraient rapidement montré en disant « Arrêtez là, votre mouvement parce qu'on a le corps ». Les Romains n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Les Juifs auraient bien voulu aussi avoir le corps en disant « Il n'est pas ressuscité, c'est pas vrai, c'était pas lui le Messie. Voici, on a son corps, il n'était pas là ». Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'était peut-être un complot, c'était peut-être les disciples qui, eux, ont comme caché le corps. Non, parce que le texte nous dit que même les disciples n'ont pas cru à la résurrection. Donc, si jamais tu veux partir un complot pour faire croire qu'il est ressuscité, essaye de marquer dans ton complot que toi, déjà, tu croyais que... Non, déjà là, on voit que le texte est véridique, que même les disciples qui étaient censés comprendre, eux, doutaient aussi. Même les femmes, même la mère de Jésus arrive en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus ? Jésus est ressuscité et ça a surpris tout le monde. La deuxième preuve pourquoi on peut croire à la résurrection, c'est parce qu'il y a le témoignage des femmes. Là, vous allez me dire, Ben, t'es sexiste. Pas du tout. Mais pour l'époque, une femme n'avait pas le droit, elle n'avait pas de droit légal. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas aller en justice et son témoignage n'était pas valide. Il fallait toujours que son témoignage soit validé par un témoin homme. Ça veut dire que dans les cas pratiques, si une femme se faisait agresser par un homme, elle contre lui, même si elle avait des preuves, le fait que ce soit elle qui arrivait et qui disait qu'il n'y avait pas d'autres témoins, elle n'était pas crue et c'était l'homme qui était mis. C'est-à-dire que la femme n'avait aucun pouvoir. Donc, si jamais tu voulais faire croire à une histoire, dis pas que c'est une femme qui l'a vue. Dis pas, si tu veux faire croire à un complot, mets pas les femmes là-dedans à l'époque. J'entends pas de femme dire amen, je comprends. Okay, c'est un peu le côté un peu plus tough là. Je suis un peu dans l'histoire, mais on arrive, la bonne nouvelle. Mais Jésus a choisi que ce soit des femmes à qui la résurrection soit révélée. Parce que Jésus savait que des années après, quand on dirait oui, mais c'est un complot, c'est impossible. Dans les premiers temps, même les disciples eux-mêmes, les commentateurs disent, ils ont sans doute eu une pression externe en disant, tu ne peux pas raconter l'histoire comme quoi ce sont des femmes qui ont vu les premières le tombeau vide, ils ne vont pas nous croire. Mais les gars, ils disaient, mais c'est vrai, et si c'est vrai, je dois l'écrire. Et même si ça paraît fou, ben Dieu va s'en servir un jour pour être une preuve de la fiabilité des Écritures. Est-ce qu'on peut remercier notre Dieu qui a prévu un chemin? Les disciples n'y croyaient pas, mais les femmes sont venues, elles en ont parlé à Pierre qui lui-même ne le croyait pas. Donc si c'était un complot, ça part mal vraiment ton histoire, parce que même ceux qui sont censés avoir fait le complot, ils n'y croient pas. Non, en fait, la réalité, c'est que tout le monde ne s'attendait pas à ça. Il n'y a personne qui s'y attendait. La troisième preuve pourquoi on peut croire à la résurrection, c'est parce qu'il y a eu des témoins oculaires. C'est-à-dire que Jésus est réapparu après sa mort. Il l'avait bien vu, son corps avait été attesté comme quoi il était mort. Il y avait une lance qui avait percé son côté, crevé son cœur pour montrer qu'il était mort. C'était attesté. Il était dans le tombeau depuis 3 jours. Et après ça, des gens par centaines l'ont vu. Pendant une quarantaine de jours, Jésus est réapparu à ses disciples. Et là, dans les évangiles, il y a des gens qui prennent soin de dire « Nous avons fait une recherche vraiment minutieuse pour montrer qui avait vu Jésus. » Et là, il parle d'un forgeron dans un village. Et puis là, il va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et chaque personne qui avant était quelqu'un qui doutait sont devenus des gens qui étaient transformés. Les témoins oculaires montraient qu'avant, ils étaient comme des gens qui n'étaient pas vraiment certains de la messianicité de Jésus, mais qui ensuite, en ayant vu le Jésus ressuscité, se sont dit, on ne peut, notre vie ne sera plus jamais pareille. Ce qu'il a dit était vrai. C'est pour ça que tu peux avoir confiance en Dieu, parce qu'il a accompli ce qu'il a dit. Les disciples, la quatrième preuve pourquoi on peut croire à la résurrection, c'est parce que les disciples qui étaient des peureux, qui étaient des traîtres, qui ont abandonné comme Pierre Jésus à quelques heures d'être crucifié, ils avaient peur d'être vus avec Jésus. Une fois qu'ils ont vu le Jésus ressuscité, ils ont été prêts à donner leur vie parce qu'ils sont quasiment tous morts sous le martyre de la torture en disant « Avoue que ce n'était pas vrai, tu n'as pas vu ressusciter. Arrête de répandre tout ça partout parce que ça fait une traînée de poudre. Et là, tout Jérusalem est en train de se convertir. Il y a quelque chose d'incroyable qui se fait. Arrête de dire ça. Ils sont tous morts, soit par l'épée, crucifiés, la tête en bas. Des choses incroyables. Ils n'ont jamais renié parce que c'était la vérité. Et lorsqu'on rencontre le Jésus ressuscité, notre vie change. On ne peut plus rester comme dans la peur ou dans le flou, dans l'incertitude. Quand Jésus se révèle à nous, ça change tout. Et ceux qui l'ont vécu, est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui se révèle encore aujourd'hui à nous? Jésus l'a dit et cela va être accompli. Comme toutes les prophéties, étaient des proclamations de ce qui allait arriver au futur. L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ça a été écrit pendant des millénaires. Il y a eu comme des centaines d'années où des gens, avant l'arrivée de Jésus, ont expliqué 300 prophéties, 300 prémonitions, on pourrait dire, de voici comment le Messie devra venir. Et ces 300 prophéties-là ont toutes été accomplies en Jésus-Christ. Elles sont aussi précises que, dans Nombre 24, il sera juif de la tribu de Juda, de la lignée familiale de David, il naîtra à Bethléem, il sera trahi par un ami proche, vendu pour 30 pièces d'argent, crucifié aux côtés de brigands, mis dans le tombeau d'un homme riche. Tout ça, ça a été écrit des centaines d'années avant que Jésus arrive. Et toutes, et ça je viens de vous en citer que 8 prophéties sur 300, on peut regarder et passer au travers des 300, Jésus les a accomplies en toutes parce qu'il était celui qui avait été promis par Dieu pour sauver l'humanité. Peter Stoner, dans son livre Science Speaks, a calculé la probabilité pour que quelqu'un puisse accomplir seulement 8 prophéties sur toutes celles faites sur Jésus dans l'Ancien Testament. Et la probabilité serait de 1 à en fait 10 à la puissance 17. Juste 8 des 300. Jésus les a toutes accomplies. Même une prophétie datant de l'an 1000 avant Jésus-Christ, 1012 avant Jésus-Christ, qui se trouve dans le psaume 22. Le psaume prédit aussi que l'homme, que le Messie, aurait les mains et les pieds percés, c'est-à-dire qu'il serait crucifié. Mais cette description fut faite 800 ans avant que la crucifixion ne soit introduite et appliquée par les Romains. Il a prophétisé la manière dont le Messie allait mourir avant même qu'on crée la croix. C'est pour te dire que si tu veux des preuves, il y en a assez pour que tu puisses changer ton idée de dire « c'est juste une fable, c'est juste un complot ». Non, Jésus est ressuscité et c'est vrai. Et ce n'est pas seulement vrai parce qu'on le dit, c'est parce qu'on l'a vécu. Et c'est ça mon troisième point alors que j'arrive à la fin de ce message. Tu peux avoir confiance en Dieu parce que son amour est là, parce qu'il accomplit ce qu'il dit, mais aussi parce qu'il est présent. Confiance en sa présence. Matthieu 28, 20 dit, et voici, c'est Jésus qui parle, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand Jésus est ressuscité, ça venait de vaincre la mort. C'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un paye, comme on l'a vu. Il fallait que le sang de Jésus soit donné pour nous donner la vie. Mais Jésus l'a ressuscité. Et lorsqu'il est sorti du tombeau, il a mis la mort à mort. C'est-à-dire que par lui, maintenant, les êtres humains peuvent avoir l'espérance et l'assurance d'un jour, même après la mort, ne plus mourir et vivre pour l'éternité. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que la présence de Jésus ici nous aide à marcher dans cette vie et elle nous promet l'assurance d'une vie éternelle. On a tous des questions existentielles. Pourquoi on est venu ici? Où on s'en va? Et rapidement, on pourrait se dire, regarde, on ne pense pas à ça, il n'y a rien après, il n'y avait rien avant, on ne sait plus. Et puis, en fait, non. Ces questions resteront toujours là. On peut essayer de les éviter, mais Jésus est la réponse à tout ça. Jésus dit, pourquoi tu es là? C'est parce que je t'ai aimé. Et la création, si tu respires en ce moment, c'est parce que je t'aime. Mais Jésus est venu aussi pour nous montrer qu'il y a un espoir plus tard. Oui, je suis avec vous dans cette vie, mais même après votre mort, vous pourrez continuer de croire aujourd'hui, même si dans les pires situations, tu pourras continuer de croire que tu vas me retrouver, je vais revenir te chercher. Jésus reviendra chercher son Église et tous ceux qui sont sauvés repartiront avec lui dans la gloire éternelle. Et c'est ça que Jésus a fait à la croix. Le dimanche, il est ressuscité pour nous donner l'espoir de la vie éternelle. Il est vivant pour toujours. Il a vaincu la mort et il a envoyé son Saint-Esprit. Jésus n'est plus avec nous physiquement comme il a été il y a 2000 ans. Mais quand il est parti, il a dit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit sera avec vous tous les jours. Et ce sera même plus avantageux pour vous. Pourquoi? Parce que quand Jésus était là, il était là physiquement à un endroit. Que le Saint-Esprit peut être partout en même temps. Non seulement il est partout, mais il est ici en ce moment, dans cette église. À la fin de la première réunion, je rencontre quelqu'un qui était là pour la première fois. Et elle me dit, ça faisait vraiment très longtemps que je n'étais pas rentré dans un genre de maison religieuse. Mais elle dit, je me suis senti comme à la maison. Je me suis senti comme si je faisais partie de vous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que cette famille ici, elle s'agrandit de jour en jour. Parce qu'on est tous sur le même piédestal, on est tous pécheurs. Mais Jésus vient changer toute chose. Et nous ne devenons pas parfaits, mais nous devenons en progression. Et nous avançons ensemble. Peu importe d'où tu viens. Si ça fait 30 ans que tu viens à l'église tous les dimanches, tu as besoin, là encore, d'avancer vers Jésus. Et si c'est ta première fois ici à l'église, sois le bienvenu parce qu'on avance ensemble. Et il n'y a pas de « Oh, mais je suis loin ». Non, pas du tout. Jésus, sa présence est ici. Et la présence de Dieu amène paix, consolation. Elle amène l'accusateur, c'est pas Dieu. L'accusateur, c'est l'ennemi. Mais Jésus vient et relevé. Jésus est vivant pour toujours. Son Saint-Esprit est avec nous ici. Il est vivant avec nous dans cette église, comme c'est arrivé à Ariana Mazza, cette humoriste québécoise qui faisait un voyage aux États-Unis, puis elle a écrit un article dans la presse à ce sujet-là, vraiment intéressant. Et c'est pas une femme de foi, elle dit, c'est pas forcément une femme qui pratique une religion ou quoi, mais elle s'est rendue compte en étant dans le sud des États-Unis, à faire une soirée avec des amis. Et puis à un moment donné, il y a une amie d'une amie qui est arrivée. Et en parlant avec elle, elle dit, hey, si jamais demain c'est dimanche, si jamais tu veux, moi je vais à l'église, tu peux venir avec moi. Et elle dit, je me suis surprise à dire oui. Elle dit, il y avait sans doute de l'alcool dans ma décision. Donc le party était arrosé. Puis elle dit, ok, je vais te suivre à l'église demain. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et puis elle dit, je suis arrivée à l'église le lendemain. Puis elle dit, je ne m'attendais vraiment pas à ça. En fait, elle est arrivée dans une église évangélique comme on a ici à Nouvelle Vie. Il fallait qu'elle aille en bas des États-Unis pour trouver ça. Il y en avait juste une 15 minutes à côté de chez elle. Mais quelque chose de fort parce qu'elle décrit exactement ce qu'on vit chaque semaine. Elle dit, alors que je suis arrivée ici, il y avait le pasteur qui était en avant. Il y avait de la vie partout. Je pensais voir juste des personnes âgées chanter des chants vraiment plates. Elle dit, non, ça riait, ça chantait, ça accueillait. Les enfants couraient partout. Il y avait comme de la vie. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Les gens étaient comme super contents de me voir alors qu'ils ne me connaissaient pas. Il y a un côté où... Elle s'est surprise à être dans l'église comme « Wow, autant d'amour, autant d'accueil. » Et voici ce qu'elle dit à la fin du message alors qu'elle écoute le sermon. « À aucun moment, je ne sens que je ne suis pas à ma place. Ma foi n'est pas ébranlée ni forcée. Je peux vivre le moment présent dans cet endroit à quelques heures de mon départ, ce qui d'habitude m'aurait stressé. Je prends chaque seconde qui défile devant moi pour observer, sourire, fermer les yeux. Je m'abandonne comme jamais. Jamais je m'abandonne. J'aime le contrôle, la lucidité. Quand tout va vite, à mon rythme, pour une rare fois, je prends le temps d'être dans un endroit totalement hors de mon confort pour m'y blottir sans attente. Je regarde ma nouvelle amie et je lui demande si je peux partir avec la Bible. Elle me dit « Of course, bien sûr ». Elle termine en disant « Je sais que j'y retournerai un jour, juste pour arrêter le temps, quand tout ira trop vite et que je serai étourdi. » J'ai aimé sa sincérité parce que c'est exactement ce qu'on vit à chaque dimanche, que j'ai vécu moi également. La présence de Dieu est palpable dans une église où des centaines de personnes viennent et élèvent le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est-à-dire que quand on élève le nom de Jésus, il y a une puissance spirituelle qui est là. Mais on va se le dire, ce n'est pas au Québec qu'on parle de puissance spirituelle. On fuit les choses spirituelles. Oh, spirituel, c'est weird, c'est des trucs bizarres, c'est des trucs de... Mais en fait, on est tous corps, âme, esprit. Donc si on a besoin de nourrir notre corps physique et qu'on a besoin de prendre soin de notre santé mentale, et de plus en plus on en parle, merci Seigneur, mais on a aussi besoin de prendre soin de notre santé spirituelle. Il y a un vide dans le cœur de l'homme qui est en forme de croix et qu'il n'y a que Jésus qui peut combler. Alors que toutes les religions proposent toutes sortes de programmes, les religions, c'est juste simple, c'est comment tu dois faire pour atteindre ton paradis. Alors que pour atteindre Dieu, c'est impossible. On l'a vu, on est pécheur. Et au plus tu veux essayer d'être bon, au plus tu prends de l'orgueil et au plus tu retombes. Alors que Dieu, il a brisé la religion, il a dit, vous ne pourrez même pas monter d'une marche sur l'escalier. Vous ne pourrez même pas. Mais restez là, c'est moi qui viens. Et c'est Dieu qui a cherché l'humanité pour la transformer. Et à la croix, il a dit, je vous aime, grand comme ça. Et je viens te donner une confiance où tu peux avancer avec moi, où je vais changer ta vie au complet. Non seulement cette vie ici, mais pour l'éternité. Ça ne sera pas une vie parfaite parce que ce monde est déchu. C'est pour ça qu'on essaye de travailler fort pour que ce monde aille moins mal. C'est pour ça qu'on va continuer d'aider en Ukraine, en Haïti, à Cuba. Tout ce qu'on peut faire ici sur cette terre, l'Église est appelée à le faire. Parce qu'elle est le bras de Dieu, elle est le cœur de Dieu, elle est la générosité de Dieu. Elle n'est pas la condamnation de Dieu. Quand trop de personnes viennent à l'Église ou quittent les églises parce qu'ils ont été abusés spirituellement, où ils ont été condamnés justement, où ils ont été tellement, tellement floués. Quand Dieu regarde ça, il pleure parce qu'il dit « c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux ». Le péché a sali tout ça. Alors que si on vient à la parole de Dieu, est-ce qu'on vient à la Bible, on voit que Jésus était l'incarnation parfaite de Dieu. Il était Dieu lui-même, il était l'amour de Dieu, il était la paix de Dieu, il consolait ceux qui étaient rejetés, il accueillait ceux que personne ne voulait et il t'accueille aujourd'hui. Tu peux avoir confiance en Dieu parce que sa présence est ici, non seulement ici, mais elle veut être dans ton cœur. La Bible dit que celui qui confesse qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Jésus, en disant « je ne suis pas parfait et si je veux me tenir devant Dieu, ben je dois être parfait, mais je ne pourrais pas l'être. » Mais Jésus l'a été pour moi et Jésus m'a dit « si tu veux, on change les casiers judiciaires. » Donc moi, je prends le tien et à la croix, je suis coupable. Moi d'innocent, je deviens coupable et toi de coupable, tu deviens innocent. Et alors que notre esprit aspire à cela, c'est quand on parle de la bonne nouvelle que l'Esprit Saint, en ce moment, tape à la porte des cœurs et qui dit « Tu dois revenir, mon enfant. » C'est la maison ici. Puis je ne parle pas du bâtiment, je parle du corps. Comme ça faisait longtemps que tu n'étais pas arrivé à une place où Dieu te donne de l'eau dans une terre aride. Ton esprit avait soif de ce qui se passe en ce moment parce que Jésus est l'eau de la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si en ce moment, tu as peur du mensonge, reste devant Jésus. Reste collé à lui. Il est la vérité. Si tu as peur de te perdre, il est le chemin. Si tu as besoin de réponse, il est la réponse. Tout ce que tu as besoin se trouve en Jésus. Il t'a prouvé son amour à la croix et il t'a donné l'espoir et l'assurance d'après ta mort, être avec lui pour l'éternité. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux alors que je voudrais prier pour vous? Alors que la parole le dit... Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et c'est là l'espoir qu'on a. C'est pour ça que tu peux avoir confiance en Dieu. Alors que j'ai grandi dans une famille où on m'a parlé tous les jours de Jésus. Arrivé à une saison de ma vie, j'ai commencé à douter et puis à aller partout. Et puis après avoir vécu une souffrance incroyable, je voulais me venger de toutes les manières possibles. Et moi qui essayais d'être une bonne personne, je me suis rendu compte que mon cœur était noir, rempli de ténèbres. Et au plus je pensais à la vengeance, au plus mon cœur, mon esprit ne pensait qu'à ça, rancune, colère. J'essayais de chasser ça, mais ça revenait. Je me levais avec ça et je m'endormais avec ça. Et alors que je cherchais Dieu un petit peu partout et mes amis me proposaient toutes sortes de religions, je suis revenu dans ma chambre et puis j'ai dit, j'ai entendu toute ma vie que Jésus faisait des miracles, que Jésus aimait, qu'il pardonnait et qu'il aidait même les autres à pardonner. J'ai dit, Seigneur, je vais faire un test parce que si tu es celui qu'on dit que tu es, eh bien, aide-moi à pardonner cette personne que moi, je veux vraiment faire du mal en ce moment. C'est impossible pour moi de pardonner par mes propres forces, mais si tu me donnes la force de pardonner, parce que c'est trop lourd à porter, si tu me donnes la force de pardonner, alors je saurai que tu es vivant. Et alors que j'étais en train de prier, alors que je voyais toute la faute de l'autre, quand je commençais à prier, le Saint-Esprit de Dieu qui est présent, il est venu remplir mon cœur. Il y a comme un feu qui a commencé à grandir dans mon cœur. Puis j'ai commencé à pleurer des larmes, pas parce que l'autre était pécheur, mais parce que je commençais à comprendre que moi aussi j'étais pécheur. Et moi qui essayais d'être une bonne personne, en fait, j'étais vide spirituellement. Et alors que je commence à prier, Dieu me donnait un pardon pour cette personne. Non seulement un pardon, mais quelques jours après, je l'ai rencontré. Il y a un amour qui est revenu pour lui. Et de la vengeance, ça s'est changé en amour. J'ai pu, quelques années après, lui témoigner de l'amour de Dieu, ce que ça avait fait dans ma vie. Il a prié avec moi, il a donné sa vie à Dieu. Maintenant, sa vie est complètement changée. Et du chaos qu'il vivait, la lumière est arrivée dans sa vie. Et maintenant, sa vie avance et elle avance de gloire en gloire. Jésus a fait une chose incroyable dans ma vie, il l'a fait dans la vie de centaines ici à Nouvelle-Ville, à Prairie, milliers à Nouvelle-Ville, des millions de personnes chaque année découvrent Jésus-Christ. On a des bagages différents, on a des cultures différentes, on a des religions différentes, on a des péchés différents. Mais on a tous fait une rencontre avec la même personne, Jésus-Christ, qui a changé le cours de notre humanité et le cours de notre éternité. Et aujourd'hui, il est là pour toi. Si tu es ici aujourd'hui, peu importe si tu as grandi à l'église ou si c'est la première fois que tu es là, il y avait un rendez-vous pour toi et Dieu t'a amené ici pour que tu entendes qu'il t'aime, que tu entendes que tu es précieux pour lui et que lui t'attend pour revenir à la maison. Il veut changer ton cœur. Viens lui dire juste, je suis pécheur et je sais que je ne suis pas parfait, j'essaye de toutes mes forces, mais en fait maintenant je veux essayer avec tes forces. Et Dieu va te transformer. Tu ne seras pas parfait, mais tu seras en progression. Il va changer le cœur de pierre que tu as en cœur de chair. Tu vas pouvoir aimer, tu vas pouvoir être consolé, tu vas pouvoir être pardonné de tes péchés, vivre libéré de tout ça. Témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a une joie qui est là. Et c'est pour ça que je suis passionné parce que je l'ai vécu et je le sais que tu en as besoin ce matin. Alors pendant que toutes les têtes sont baissées et les yeux fermés, c'est un temps de révérence en ce moment. Révérence devant Dieu et puis de l'intimité entre toi et Dieu. Et alors que je parlais que l'Esprit de Dieu était là, l'Esprit est en train de convaincre certains de dire « Il faut que je revienne à Dieu. Il faut que je lui demande pardon pour mes fautes. Il faut que je m'abandonne à lui parce que lui a tout donné pour moi. » Si c'est ton désir, fais juste alors que tout le monde a les yeux fermés, il n'y a personne qui regarde. Symboliquement, juste lève ta main. Dis-moi « J'aimerais accepter Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci pour les mains qui se lèvent. »